franceinter.fr.
Marcel !
Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes.
Parce que j'étais enfant, à Combray, nous allions du côté de Guermantes.
Un été avec Proust. Une émission de Laura Elmaki.
Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Le lecteur qui ouvre du côté de chez Swann se retrouve dans une chambre en compagnie d'un narrateur qui essaie de trouver le sommeil. Il s'endort, se réveille, se rendort, s'abandonne doucement au monde des rêves et parvient à voyager dans le temps mais aussi dans l'espace. Il se souvient ainsi de toutes les chambres qu'il a habitées. L'une d'elles surgit plus nettement que les autres, celle qu'il occupait étant enfant à Combray, un village où il passait des vacances avec sa famille. Ainsi, dès le début d'À la recherche du temps perdu, nous sommes littéralement plongés au cœur de souvenirs qui sont directement rattachés à un lieu bien précis. Nous sommes dans la maison de la tante Léonie à Combray donc, un endroit imaginaire qui sera le théâtre de scènes fondatrices. Le drame du coucher bien sûr, mais surtout la première dégustation de la Madeleine. Ce soir, nous partons donc du côté de Guermantes et du côté de Méséglise, les deux chemins empruntés par le narrateur à Combray et que nous allons parcourir avec le professeur de philosophie Michel Hermant.
Oui, bien ce que nous venons d'entendre, c'est toute l'importance des sons avant les sonorités dans le déroulement de la recherche. Nous venons d'entendre le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, qui s'oppose au grelot que déclenchent de l'autre côté les gens de la maison qui entrent sans sonner. Et qu'est-ce qui survient ? Qu'est-ce qui est entré ici, comme nous venons d'y entrer nous-mêmes ? Eh bien, c'est Swann. Ça ne peut être que Swann qui vient dîner en voisin. Et ces deux coups hésitants de la clochette, ils veulent dire que le narrateur enfant devra remonter dans sa chambre sans avoir, comme les autres soirs, la consolation que sa mère viendra l'embrasser. Angoisse, désespoir, réflexion, recherche, tout part de là, dans ces quelques mètres carrés entre lesquels nous sommes. Mais ce qu'il faut ajouter pour réparer un oubli fréquent, c'est que la fin du livre nous ramène ici, au lieu du départ. Après 3000 pages, au terme du temps retrouvé, qu'entendra le narrateur ? Eh bien, il entendra le bruit des pas de ses parents qui reconduisent Swann. Ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais, de la petite sonnette qui annonce qu'enfin Swann est parti, que maman va monter. Et toute la trame qui court à travers l'immense roman relie deux sons créateurs, ces deux sons créateurs entre lesquels nous sommes réunis.
Bonsoir Michel Hermant.
Bonsoir.
C'est ainsi que débute le récit de Combray. Maurice Schumann nous rappelait à l'instant le rôle, un peu comme au théâtre, hein, le début du véritable roman qui s'enclenche, qui se déroule sous nos yeux. Tout part de là avec cette clochette qui réunit finalement un temps et un espace.
Oui, c'est un espace d'abord, la maison de Tante Léonie. Et c'est le temps de l'enfance. Et cet espace-temps, intitulé Combray dans le roman, vient dans la réalité de deux lieux. Premier lieu, c'est une propriété de l'oncle maternel de Proust, qui se situait à Auteuil, qui était à l'époque, à la fin du XIXe siècle, un quartier de Paris, où la famille Proust allait en villégiature les week-ends, comme on dirait aujourd'hui, pendant les vacances également. Et c'était une très très belle maison, de trois étages, entourée d'un vaste parc planté d'aubépiniers. Les fameuses aubépines, ça n'est pas sans importance. Et puis le deuxième lieu réel qui a composé Combray, c'est la maison de la tante paternelle à Hillier, une petite ville entre Beauce et Perche, qui était au fond une sorte de petite ville construite autour de son église où le temps semblait arrêté, mais qui avait une sorte de charme incomparable. Et la famille Proust y est allée en vacances de printemps et d'été pendant quelques années. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait dire comme ça pour rassembler les deux lieux en un mot, c'est qu'il y a deux côtés à l'origine de l'enfance dans le roman. Hein, il y a le côté de la mère et puis il y a le côté du père. Auteuil, il y est.
Alors, c'est un lieu qui est aussi entre le réel et l'imaginaire, hein, parce que Proust choisit de le nommer Combray et non pas Illiers, justement.
Oui, donc il choisit de nommer le lieu Combray, hein, par proximité avec le nom de Combourg, dans les mémoires de Chateaubriand, voilà, où Chateaubriand rapporte un événement de mémoire involontaire pratiquement semblable aux événements de mémoire involontaire que l'on va trouver ici, enfin l'événement de la Petite Madeleine.
Pourquoi Proust choisit, pour décrire ce lieu fondateur du livre, un lieu finalement qui n'existe pas réellement ? Pourquoi s'intéresse-t-il au lieu imaginaire et non pas au lieu réel ?
Alors oui, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Proust, il n'y a pas de lieu imaginaire et de lieu réel. Dans le roman, hein, dans La recherche du temps perdu. Les lieux sont finalement un mixte entre des impressions réelles, une géographie réelle, mais fluctuante. On le verra par exemple au bord de la mer à Balbec, hein, une géographie réelle et puis une géographie imaginaire. Et ce qui compte pour Proust, ce n'est pas du tout de décrire les lieux. Proust n'est pas Balzac. Il est extrêmement difficile, par exemple, de se faire directement une idée de ce que peut être la petite ville de Combray. On doit passer par la conscience du narrateur et des personnages.
Elle est déformée
donc,
par cette conscience.
Elle est recomposée, c'est une vision. Hein, c'est une vision. Donc pour Proust, que le lieu soit réel ou qu'il soit imaginaire, disons qu'il va dans un lieu réel, il va finalement passer, les passages, les visions seront toujours un petit peu parcellaires. Ça ne sera jamais une vue d'ensemble, hein, parce que c'est un lieu que l'on voit. Hein, c'est presque, je dirais, la comparaison est un tout petit peu osée, hein, c'est presque un théâtre. Hein. Le théâtre, c'est le lieu où l'on voit.
Alors, ce lieu est inspiré de l'enfance de Marcel Proust et il est assimilé dans le roman à l'enfance du narrateur. Et finalement, Marcel Proust distille à travers la voix du narrateur des souvenirs hein, qu'il a pu peut-être recréer et qui témoignent d'une époque insouciante, heureuse. André Dussolier va nous lire tout de suite un passage dans Du côté de chez Swann dans lequel le narrateur décrit justement un moment très heureux qui est un déjeuner de famille.
Quand après la messe, on entrait dire à Théodore d'apporter une brioche plus grosse que d'habitude parce que nos cousins avaient profité du beau temps pour venir de Tibersie déjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui, doré et cuit lui-même comme une plus grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements gommeux de soleil, piquait sa pointe aiguë dans le ciel bleu. Il y avait bien longtemps que l'heure altière de midi, descendu de la tour de Saint-Hilaire qu'elle armoriait des 12 fleurons momentanés de sa couronne sonore, avait retenti autour de notre table, auprès du pain béni venu lui aussi familièrement en sortant de l'église, quand nous étions encore assis devant les assiettes des mille et une nuits appesanties par la chaleur et surtout par le repas. Car au fond permanent de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, qu'elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait, selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre génie, et si bien que notre menu, comme ces quatre feuilles consultées au XIIIe siècle au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et les épisodes de la vie, une barbue, parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur, une dinde, parce qu'elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin, des cardons à la moelle, parce qu'elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là. Un gigot rôti, parce que le grand air creuse et qu'il avait bien le temps de descendre d'ici 7 heures. Des épinards pour changer. Des abricots, parce que c'était encore une rareté. Des groseilles, parce que dans 15 jours, il n'y en aurait plus. Des framboises, que M. Swann avait apportées exprès. Des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin après 2 ans qu'il n'en donnait plus. Du fromage à la crème, que j'aimais bien autrefois. Un gâteau aux amandes, parce qu'elle l'avait commandé la veille, une brioche, parce que c'était notre tour de l'offrir. Quand tout cela était fini, composé expressément pour nous, mais dédié plus spécialement à mon père, qui était amateur, une crème au chocolat, inspiration, attention personnelle de Françoise, nous était offerte, fugitive et légère, comme une œuvre de circonstance, où elle avait mis tout son talent.
Françoise et sa crème au chocolat qu'on aimerait bien déguster à la place du père du narrateur. Alors Michel Hermant, c'est vrai que Proust a cette capacité formidable de rendre compte des petits bonheurs de l'existence. Et Combray, c'est aussi ça, c'est le lieu du bonheur.
Oui, Combray, c'est à la fois le lieu du bonheur et le lieu du drame. Hein. Et le temps de l'enfance est un temps double, peut-être comme nous l'a appris la psychanalyse. Voilà. C'est à la fois le temps de l'innocence et le temps de la tragédie. Alors la cuisine, c'est du côté de l'innocence et du bonheur, bien évidemment. Mais vous avez vu combien dans ce texte, au fond, Proust régale les palais, bien sûr, et on aurait presque envie de se mettre à table, mais il régale aussi les imaginations. Et la nourriture, c'est la commensalité, c'est l'échange, c'est la prodigalité de Françoise. Et puis, alors, du point de vue du gastronome, hein, c'est une cuisine à la fois rustique et bourgeoise, et traditionnelle bourgeoise. C'est une cuisine du 19e siècle, hein, qui est faite de braisé et de rôti. Ce n'est pas la cuisine bourgeoise qu'on va trouver à Paris, par exemple, chez Madame Swann. Non. Ce n'est pas la cuisine d'Ancien Régime, avec les bouchées à la reine, qu'on va manger chez les Guermantes. Non. C'est une cuisine du terroir, dirait-on aujourd'hui. Et puis, lorsqu'on écoute le texte, on entend à la fois de la tendresse de l'enfance, mêlée à la tendreté de la nourriture, en quelque sorte. C'est presque un bonheur érotique. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la description de la petite Madeleine, c'est aussi une description quasi érotique.
Un été avec Proust, Michel Hermant, Laura Elmaki.
Alors quittons pour un instant la salle à manger et montons peut-être dans la chambre du narrateur qui est, on peut dire, le premier lieu du livre, premier lieu de Combray aussi, Combray qu'on aperçoit sous plusieurs facettes. Hein. Il y a la chambre, il y a l'église, il y a le jardin, on va en parler de tout ça, mais la chambre c'est le premier lieu, c'est là que tout commence.
Oui, je crois que la chambre c'est là que tout commence, le roman commence dans une chambre totalement indéterminée. Et dans cette chambre princeps du début du roman, de cette chambre princesse vont sortir d'autres chambres, et notamment la chambre de Combray. Alors la chambre de Combray, la chambre du héros, hein, elle se situe au premier étage. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que la maison, cette maison de Tante Léonie, est divisée en deux. Il y a le rez-de-chaussée, le premier étage. Au rez-de-chaussée, c'est le plaisir, la nourriture, comme on vient de l'entendre. C'est aussi la lecture dans le jardin, par exemple. Et puis au premier étage, séparé par un escalier, un escalier dont le narrateur se souvient avec une sorte de terreur.
Il a peur de le monter pour atteindre cette chambre.
Il a peur de le monter parce que c'est aller se coucher et être séparé de sa mère. Hein. A fortiori, quand la fameuse clochette annonce la venue d'un visiteur, la plupart du temps c'est Swann, et donc la mère va être occupée dans la sociabilité bourgeoise et ne va pas s'occuper du petit enfant. Et donc la chambre, c'est un lieu d'angoisse. Alors pour distraire le petit enfant qui a du mal à s'endormir, on lui fait des projections de lanternes magiques. Et puis c'est aussi le lieu de la séparation totale, hein, là où il attend que sa mère vienne lui dire bonsoir.
Alors quand on sort de cette maison, il y a l'église. C'est le premier bâtiment qui occupe 2 à 3 pages du côté de chez Swann et qui est décrit dans toute sa majesté.
Voilà, alors pour moi, il y a deux lieux archétypaux. Il y a la chambre, et il y a de nombreuses chambres dans la Cherche du Temps Perdu, à Balbec, à Paris, etc. C'est souvent dans les chambres, d'ailleurs, que les événements, au sens très fort philosophique du terme, s'inscrivent, commencent, hein, prennent corps. Et puis, il y a les églises. Alors, il y a de nombreuses églises, il y a des cathédrales, mais enfin, l'église la plus importante, c'est celle de Combray, et puis celle d'un village à côté, Saint-André-des-Champs. Alors, ce que l'on peut dire, pour être concret, si je puis dire, c'est que les églises, ce sont des lieux de mémoire, avant d'être des lieux de culte. Pourquoi ? Parce qu'au porche des églises, dans le livre de Pierre, comme disait Victor Hugo, eh bien, il y a une sorte, allez, je tente la comparaison, les puristes ne m'en voudront pas, eh bien, une sorte de bande dessinée qui raconte la vie des saints, la vie du passé. Et au porche des églises, le livre de Pierre, pour nommer les choses de façon plus noble, parle à tout le monde. Même à une servante peu cultivée comme Françoise. Elle comprend l'histoire de France, l'histoire de sa culture, au porche de l'église.
Alors Combray finalement est structuré en deux chemins, j'en ai parlé en introduction, il y a le côté de Guermantes et le côté de Mes Églises. Alors que symbolisent ces deux chemins ?
Alors oui, soit on va se promener du côté de Guermantes, soit on va se promener du côté de Mes Églises ou côté de chez Swann, parce qu'on passe devant la demeure de Swann. Et pour aller d'un côté comme de l'autre, on ne sort pas de la maison, on ne quitte pas la maison par la même porte. C'est une géographie, en quelque sorte quasi dualiste, qui structure l'espace. Et à la fin du roman, bien des années plus tard, le narrateur se rendra compte que les deux côtés qu'il croyait au fond séparés, eh bien, étaient tout à fait reliés, qu'on pouvait aller de l'un à l'autre. Alors donc, ces deux espaces représentent plusieurs choses. D'abord, du point de vue de la sociabilité, du côté de mes églises, on va du côté de la bourgeoisie, on va du côté de chez Swann. Du côté de Guermande, on va du côté de l'aristocratie. Il y a donc deux côtés, c'est déjà deux mondes sociaux. C'est aussi deux géographies, on aurait pu commencer par là. Le côté de chez Swann, du côté de mes églises, c'est la plaine de la Beauce. Et le côté de Guermande, c'est le paysage d'eau, de rivière, avec des nymphéas. Et puis, tout au bout du chemin, qu'on n'atteint jamais parce que la promenade est très très longue, il y a ce lieu quasi inatteignable qui est le château de Guermande et qui représente une sorte d'idéal dans le roman. L'idéal, au fond, du passé, l'idéal de l'histoire passée. Quant au côté de chez Swann, ou le côté de mes églises, là, c'est le côté, au fond, de la vie, de la sexualité, et non pas de l'idéal. C'est du côté de chez Swann que Marcel, le héros, rencontre pour la première fois Gilberte, qui sera son premier amour.
Oui, son premier émoi sentimental. Donc, en fait, on a vraiment... Mes églises, c'est... oui, c'est l'amour, et Guermande, c'est la future carrière mondaine.
Alors, c'est à la fois la mondanité et l'écriture. C'est à la fois la mondanité, au fond, et l'art. Parce que le narrateur revient, enfin le héros narrateur revient quelques années plus tard, au moment de son adolescence, à Combray, au moment de la mort de tante Léonie. Et il va faire des promenades du côté de Guermande. Et du côté de Guermande, il rêve. Au fond, il se rêve écrivain en allant se promener du côté de Guermande. Il a besoin, en quelque sorte, non pas de la mondanité, là, mais de l'idéal que représente ou qu'a représenté à un moment le passé aristocratique de la France.
Merci Michel Armand et à demain, nous parlerons de Balbec. Bonne soirée et à demain.
Je suis bien cet imbécile, triste et heureux à la fois. Je compte les trains qui défilent et ne s'arrêtent pas. J'habite toujours en vacances, à mon âge ça ne se fait pas. Ne vois-tu rien entre les gouttes, moi je ne m'habitue pas à ce qui tombe sur la ville. On pourra pas refaire le film. J'ai mal d'amour, émail de Chine, du vent dans les yeux. Je vis au bord d'un précipice, les jours de grand vent c'est danger. Toi tu n'as pas su prendre le risque d'aimer. T'as cru qu'il me fallait la lune et d'un héros pour cavalier. Je me fous bien d'avoir la lune et Tarzan. Qui tombe sur la ville, on pourra pas refaire le film. J'ai mal d'amour, émail de Chine, du vent dans les yeux. Ah, ce qui tombe sur la ville, on pourra pas refaire le film. J'ai mal d'amour, émail de Chine, du vent dans les yeux. Les yeux fermés, les nuits qu'on rêve et se fabrique sont belles à hanter. Ivre d'amour et de musique, on a des forces oubliées. On trinque aux ombres à l'arsenic, on est fou allié. Quand ça tangue, moi ça m'excite. Après tout, je suis qu'un vertige. Bateau.